Alors, la première question que je vais vous poser et qui intéressera les auditeurs, c'est de savoir le Drô à quoi il ressemble au-delà d'Eymé, grosso modo. Quelle est sa largeur, enfin, parce que nous, on le connaît ici comme une toute petite rivière qu'on pourrait presque sauter en prenant assez d'élan, pas tout à fait quand même, chez vous, à quoi il ressemble,
Bon,
Jacques Constantin.
il est certain que chez nous, il présente une plus grande largeur, de l'ordre de 20 à 25 mètres. Il a reçu entre-temps plusieurs affluents, dont le dernier assez important est la Dourdaine, qui passe à Miramont, puis après la Dourdaise, en suivant plusieurs ruisseaux. Et alors, il prend un peu de largeur. Effectivement, cette largeur plus grande, ce volume d'eau plus important fait que les moulins sont un peu plus grands que dans la partie supérieure du Drô. Hein. Il n'est pas rare de voir 4 jusqu'à 5 meules sur certains moulins de cette partie du
D'accord,
Drô.
oui. Je crois que nous reparlerons des moulins plus en détail dans le courant de cette émission ou dans une prochaine émission, parce que je pense, on peut le dire d'ores et déjà, il faudra que vous reveniez jeudi prochain pour qu'on fasse le tour de tout ce qu'il y a à dire sur le Drô. Alors, il fait combien de large à peu près, mettons, à Saint-Pierre hein?
25 mètres.
25 mètres quand même.
25 mètres.
Oui. Et est-ce que la largeur est la même jusqu'à l'embouchure hein?
Ah non, c'est quelque chose d'assez particulier. Quand on descend du côté de Loubens, Bagasse, les derniers moulins,
C'est en Gironde déjà là.
oui, il est plus étroit, de l'ordre de 15 mètres. Par contre, il est très encaissé, une très forte profondeur de l'ordre de 4 à 5 mètres, tandis que du côté d'Allemand, Saint-Pierre-sur-Dreau, la profondeur est de l'ordre de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres au maximum. Hein. Plus bas, plus étroit, plus profond.
D'accord. Alors je crois qu'on peut rappeler d'ores et déjà que le Drô était navigable et a été navigué lors du siècle dernier jusqu'à Eymet à peu près.
Oui, la navigabilité du Drô est très ancienne. La navigabilité du Drô, c'est la construction des barrages, des chaussées, dites chaussées dans la région, qui a déterminé la navigabilité. Mais navigabilité ne voulait pas dire facilité de passage des chaussées, des moulins. La navigabilité s'est faite de tout temps, surtout dans la basse partie du Drô, avec des barques légères embarquant jusqu'à 4 à 6 barriques, c'était les gabarres dans le parler local.
Oui.
Et après, il y a eu tout un tas de systèmes, des gruges,
D'aménagement, oui.
d'aménagement pour essayer de franchir ces obstacles.
Oui.
Et petit à petit, on est passé de choses simples, c'est la grue, puis pont transbordeur à bateau dont on parlera plus tard.
Oui.
Et puis après, finalement, les écluses en 45 pour une période, en 1845,
1845,
pour
oui.
une période de navigation très très faible, puis ça a été détrôné par la voie ferrée. On pourra parler
D'accord.
de ça
Oui, je
plus
crois qu'il y
plus
aura
longuement
beaucoup de
avec
choses à
vous.
dire donc sur cette navigation. Ce sera un peu le thème de
Prochaine
la
émission.
prochaine émission. Je tenais quand même à le citer aujourd'hui. Alors, ici, on connaît le Drô comme une petite rivière qui, en hiver, a beaucoup trop d'eau et en été, parfois, en a trop peu. Est-ce que chez vous, c'est la même chose?
Exactement.
Oui, allez-y.
Oui, je crois que
Tout le
c'est
monde peut.
certainement un problème qui est soulevé l'été en période d'étiage et où tout le monde pompe un petit peu l'eau pour l'arrosage et tout, et le niveau d'eau baisse terriblement, je crois. Et c'est important de le signaler parce que les berges sont quand même tenues par l'eau, par un niveau constant. Et quand ce niveau baisse quelquefois d'un mètre à 1,50 m, les berges s'effondrent et ça entraîne pas mal de dégâts sur les berges.
Sur les berges, oui. Est-ce que vous pouvez citer des années, mettons, où ça a vraiment baissé jusqu'au point où.
Il y a eu une année très critique, c'était l'année 1976 avec la sécheresse qu'on a connue. Moi, on a pu à ce moment-là aller d'un moulin à l'autre en suivant le lit de la rivière. Il n'y avait pas un filet d'eau qui coulait, il n'y avait absolument pas d'eau. Et encore, on peut se poser la question. En 1976, ça remonte à 9 ans, les puissances des installations d'arrosage n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Une période de sécheresse comme à ce moment-là, avec les puissances d'arrosage actuelles, ce serait vraiment critique. Et ce qui est à signaler surtout, c'est qu'il y a certainement moins de discipline dans la basse vallée du Drô au point de vue du partage de l'eau et du pompage. J'ai entendu Claude Brouillet nous parler de la responsabilité des agriculteurs qui se partageaient l'eau. Chez nous, c'est pas tout à fait pareil. Il y avait vraiment l'anarchie à tel point que l'été dernier, et ce n'était qu'en juillet, alors on peut se demander ce qui serait arrivé si la sécheresse avait duré jusqu'en septembre, comme c'était le cas en 76. Dès juillet, il y a eu des problèmes de vannes ouvertes à l'insu des propriétaires absents, avec obligation de démonter la crémaillère, la déposer en mairie, une autre vanne carrément dérobée. C'est le fait d'irresponsable, c'est pas le fait des propriétaires du moulin qui sont gardiens du niveau d'eau.
Oui, on peut expliquer plus en détail, c'est-à-dire que le moulin retient de l'eau, donc ça avantage celui qui est en amont, mais celui qui est au-dessous, il voudrait que l'eau qui est retenue par le moulin coule pour que lui puisse pomper.
C'est exactement ça, d'où la tentation très forte d'aller ouvrir la vanne du bief au-dessus pour récupérer l'eau. Mais quand les propriétaires du bief encore en aval font la même chose, le résultat c'est que c'est de l'anarchie la plus complète et personne n'y trouve son compte. Et puis on peut surtout se demander, c'est arrivé l'an dernier au mois de juillet, qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas plu dans les jours qui ont suivi et s'il n'y avait pas eu d'eau jusqu'en août-septembre.
Bien sûr, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une idée quand même chez les gens de s'organiser?
L'idée, l'organisation, elle n'y est pas, mais l'idée c'est surtout des lacs collinaires qui seraient remplis pendant les périodes hivernales, les mois d'hiver, et l'eau serait restituée au lit de la rivière. Mais bon, ça pose de gros problèmes parce que d'abord, c'est le coût de la construction est important. Et puis, la tentation sera forte quand ces lacs seront construits de l'utiliser à des fins de loisirs et tout ça et de ne pas la vider pendant l'été. Donc, on peut s'interroger sur le bien fondé de ces projets.
D'accord. Donc, le problème reste encore à résoudre.